Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Restons courtois, Marc Hainaut.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Thomas Morel. À 19h, nous recevrons le journaliste de défense Maxime Coupeau. Avec lui, nous reviendrons notamment sur les deux films qui sont sortis au cinéma consacrés au général de Gaulle, le général de Gaulle de la France libre sur la période 1940-1944. Maxime Coupeau, qui est un fervent cinéphile en plus d'être un sacré gaulliste, reviendra avec nous sur les détails de ce film. À 19h15, nous recevons Jean-Frédéric Poisson, avec qui nous parlerons justement des débats sur la fin de vie et notamment de cette... De ce couac, on peut le dire, ça faisait longtemps, c'était plutôt le premier mandat d'Emmanuel Macron qui nous avait habitués, mais là c'est un vrai couac ministériel. En effet, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Laurent Panifou, a proposé aux députés, a convié les députés à une petite sauterie pour fêter la loi, le vote définitif de la loi sur la fin de vie. Alors la loi sur la fin de vie qui n'est pas encore définitivement votée, mais Laurent Panifou prend de l'avance, il invite un cocktail co-organisé avec le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, évidemment levé de bouclier à droite, on y reviendra avec Jean-Frédéric Poisson. Mais en attendant, Thomas Morel, on va parler droit de succession, on va parler héritage, parce que ce qui se passe de nouveau, c'est que habituellement c'est un sujet, c'est un marronnier à gauche presque. Dès qu'il faut chercher de l'argent, il faut les taxer, les héritages, parce que l'héritage, c'est facteur d'inégalité. Ouais, parce
taxer
que
les riches.
Ouais, taxer les riches globalement. Mais ça, j'ai envie de dire, on avait l'habitude, et avec la NUPES, le nouveau Front Populaire, les partis de gauche devant s'unir et s'allier, ils devaient trouver des terrains d'entente et des terrains assez neutres pour eux, et notamment taxer les riches. Ce qui était bien, c'est que ça fédérait et les socialistes et les écolos, les communistes, les insoumis, j'en passe. Mais la nouveauté, c'est que Sébastien Lecornu.
Aussi.
Et là, j'ai envie de dire, on n'est plus d'accord. Parce que le macronisme, c'est censé être l'ami de l'argent. Ouais. Non, blague, on va être sérieux. Sébastien Lecornu a annoncé qu'effectivement, il était favorable à contraindre, en fait, les gens à ne pas disposer de leur argent comme ils l'entendent, et notamment à ne pas en faire hériter leurs enfants, voilà. Thomas.
Alors en fait, on va juste le rappeler, ça se passait la semaine dernière aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui est un grand raout où on invite vraiment que le centre. C'est-à-dire que tout le France Insoumise n'est pas invité, le Rassemblement National n'est pas invité. Si vous venez, vous êtes journaliste de Valeurs Actuelles, on vous accueille pas trop chaleureusement.
Un petit strapontin dans un coin,
exactement.
Et puis taisez-vous.
Et donc, dans ce grand rassemblement de entrepreneurs,
de centristes satisfaits,
Sébastien Lecornu a tout de même expliqué qu'il envisageait sérieusement d'imposer aux plus fortunes, aux grandes fortunes et aux plus aisés, de transmettre leur patrimoine pour partie, mais pour grande partie à des fondations d'utilité publique, en disant en gros, soit vous donnez l'argent à des causes qu'on considère bonnes, soit on vous le prend, on le met dans les caisses de l'État.
Ce qui est intéressant, et d'ailleurs on a entendu dans l'entourage d'Edouard Philippe des personnes favorables à une taxation beaucoup plus forte de l'héritage, alors qu'on le rappelle que c'est un impôt qui est exceptionnellement fort. La France fait partie des champions du monde dans cette catégorie. Et c'est un petit peu ça le malentendu, parce que lorsque les Français ont élu Emmanuel Macron en 2017, ils se sont dit « cet homme a énormément de défauts, mais au moins c'est un libéral ». Alors le macronisme n'est pas du tout un libéralisme, Thomas Morel, visiblement.
Non, bon, d'ailleurs on va pas débattre pendant des heures là-dessus.
Non, parce qu'on va être d'accord,
ça devrait être un intérêt.
Ça devrait être un intérêt.
Il y a quand même ce qui est effectivement assez problématique, c'est d'abord, on va rappeler que quand on taxe l'héritage, c'est de l'argent qu'on a déjà taxé au moment où vous l'avez gagné. Ensuite, au niveau dont on parle, on l'a taxé une deuxième fois parce qu'il a été imposé à l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc là, en fait, on vous le prend une troisième fois. Donc effectivement, il y a une certaine frustration légitime de la part de ceux qui sont concernés. Là où quand même je le rejoins, et là où ni vous et moi ne serons pas d'accord, c'est que effectivement, transmettre un patrimoine important à ses héritiers sous forme d'argent, ça a effectivement contribué à créer une société de rentiers. Et c'est compliqué à justifier aujourd'hui. La promesse républicaine, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est on vend une forme de méritocratie. Et si vous ou moi, on peut dire, je travaille doucement et j'aurais pas besoin trop de me fatiguer parce qu'à la fin, je vais avoir l'argent de mon père ou de ma mère.
Alors, on précise que ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, nous travaillons tous les deux énormément.
Absolument.
Voilà, nous
mais
ce
que je veux dire,
non mais attendez, parce que... Voilà. Alors vous, je sais pas.
mais par ailleurs, en fait, il y a beaucoup de problèmes, on va en débattre dans tous les sens. La première difficulté qu'on va rappeler à ceux qui ne sont pas exactement au courant de la façon dont fonctionne la transmission de l'héritage en France, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
Et déjà, c'est un problème.
Déjà,
philosophiquement, c'est un problème.
Déjà, c'est un problème philosophique. Mais c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on appelle la réserve héréditaire qui, légalement, vous oblige à transmettre une partie de votre patrimoine à vos héritiers, que ce soit votre conjoint ou vos descendants. Et le reste, qu'on appelle la quotité disponible, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais si vous ne pouvez pas en donner plus qu'une certaine partie, comme vous voulez, sinon, vos héritiers sont en droit d'aller devant la justice et d'obtenir réparation.
Oui.
Donc, en fait,
on ne peut pas déshériter son enfant au profit de son voisin, quoi, en fait, en quelque sorte.
Quand Sébastien Lecornu dit « on va obliger les grandes fortunes à donner une grosse partie de leur patrimoine à des fondations d'utilité publique », légalement, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible.
Ouais.
Ça, c'est la première chose.
Ce qui pose problème.
Ce qui pose problème, et ce qui est d'ailleurs très ironique, c'est que les États-Unis, où en fait, vous êtes beaucoup plus libre de faire ce que vous voulez de votre patrimoine, c'est un pays où... les très très riches, en fait, créent des fondations, donnent tout leur argent en disant « mes enfants n'ont pas besoin d'avoir autant d'argent et je le donne pour des grandes causes ». Il faut imaginer que si Bill Gates était français et non pas américain, il a dit qu'à son décès, 99% de sa fortune ira à la fondation Bill et Melinda Gates. En France, il ne pourrait pas le faire.
Oui,
en France,
il
créerait une génération de rentiers qui n'auraient aucun sens, en fait.
Ouais. Ouais. Mais alors là où effectivement je trouve qu'il y a un souci, alors ça pose peut-être des questions d'égalité, que ça contrevient au mythe républicain d'égalité des chances, encore que ils n'ont pas besoin de ça pour avoir plombé le système eux-mêmes, déjà de base. Il y a un problème parce que moi, vous voyez, je me dis, si je veux, vous et moi, nous avons des enfants, si on se dit, je vais travailler beaucoup pour bâtir un patrimoine, quelque chose de stable, c'est justement parce qu'on est motivé par l'idée de le transmettre à nos enfants, ou de le transmettre à nos héritiers, ou alors à notre épouse, si on en vient à partir avant elle. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une vraie motivation. Si vous enlevez cette possibilité-là, en fait, quel est l'intérêt d'entreprendre? Quel est l'intérêt de bâtir des... pas des empires, mais des fondations solides, finalement, puisque rien ne vous survivra. Alors, quel est l'intérêt?
C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je ne sois pas sûr que la transmission aux enfants soit le moteur principal qui pousse à construire des empires. C'est plutôt la conquête du pouvoir et l'idée de faire quelque chose de grand que de dire
construire des empires, c'est peut-être un peu excessif, mais si on décide par exemple si on ne peut rien léguer à nos enfants, enfin je veux dire, on est locataire toute notre vie, on vit au présent, enfin vous voyez, si on constitue un patrimoine immobilier et même un patrimoine financier, c'est parce que on a envie de partir l'esprit tranquille et se dire que malgré notre disparition, nos enfants ne manqueront de rien, ce qui est quand même le premier réflexe d'un parent.
Mais oui, je ne suis pas titre personnel, extrêmement convaincu qu'un grand entrepreneur se dise je vais construire une super entreprise pour mes enfants.
On ne bâtit pas Total pour ses enfants, peut-être pas. Non, mais ça, ça d'accord. Mais ça, d'accord ça, okay.
Voilà. Ouais. Il y a quand même, au fond de la décision de Sébastien Lecornu de effectivement revenir sur bientôt 10 ans de macronisme où on avait dit il faut baisser les impôts.
Lire l'ampleur des dégâts.
Voilà, exactement. Lisez l'ampleur des dégâts, qui est que l'État français n'a plus d'argent, Sébastien Lecornu n'a plus d'argent, et Sébastien Lecornu veut encore en dépenser. C'est-à-dire, il l'a très très bien dit quand il était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il a dit vous dites qu'il faut taxer plus fortement l'héritage, et ben chiche, l'année prochaine, on a encore une marge de 6 milliards à trouver dans nos comptes publics pour financer la défense. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai besoin de plus d'argent, donc ça m'arrange qu'on taxe. C'est-à-dire que dans son esprit, il dit, il faut que les grandes fortunes contribuent plus à l'État et fassent un effort patriotique supplémentaire, mais en réalité, ce qui l'intéresse surtout, c'est qu'ils fassent rien et que lui puisse leur dire à côté, passez à la caisse, j'ai besoin d'argent.
Oui, en fait, il y a un petit peu l'idée, il va falloir bâtir un budget l'année prochaine, il va falloir trouver une majorité improbable, où est-ce que je pourrais trouver de l'argent et sans que les socialistes me tapent dessus.
En fait, c'est l'héritage. C'est la taxe Zucman qui revient par la bande, celle qui consiste à dire que les grandes fortunes sont trop riches et qu'on va leur prendre une partie de leur patrimoine et que tout va s'arranger. Et ça ne marche pas. C'est bâti sur des raisonnements économiques un peu fallacieux. Et, voilà. Et d'ailleurs, raison pour laquelle personne n'en veut, sauf les socialistes.
Mais pour l'instant, alors, il est vrai que Sébastien Lecornu se défend en disant que ça ne concernera que les gros patrimoines.
Ça finit toujours par qu'on... Enfin, on finit toujours. C'est comme les taxes exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on les crée au début de manière temporaire, et puis un jour, le temporaire devient définitif.
C'est comme la CSG, quoi. C'est comme notamment la CSG, quoi. C'est parti des trucs.
Voilà. Ouais. Il y a quand même autre chose, et encore un dernier problème avec la proposition de Sébastien Lecornu, c'est qu'il dit qu'il veut que les grands patrimoines alimentent des fonds d'investissement pour la souveraineté du pays. Or, en fait, les grands patrimoines, c'est jamais un million d'euros sur un compte en banque, sur un compte courant. C'est une entreprise, c'est des placements, c'est de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà des choses qui participent de la souveraineté nationale parce qu'une entreprise, ça participe de la souveraineté nationale.
Oui. Au fond, on a l'impression d'être face à une classe politique qui déteste tout ce qui demeure, entre guillemets, c'est qu'il faut que l'argent soit quelque chose de liquide, qui s'en va, qui se déplace, etc. Mais au fond, c'est quoi ? C'est une hostilité de principe vis-à-vis des riches, vis-à-vis de tout ce qui pourrait s'apparenter à du patrimoine qui ne bouge pas.
Enfin, ouais, comment... Il y a déjà une forme d'hostilité vis-à-vis de tout ce qui est riche.
Enfin, des riches, en sachant que dans l'esprit, par exemple, de la gauche, être propriétaire, c'est déjà être riche.
Voilà, exactement. Il y a également, je pense, malheureusement, une forme d'opportunisme. C'est-à-dire qu'on se dit, y a de l'argent à prendre, je vais le prendre. Ou quelqu'un dit quelque chose, c'est super, je vais m'engouffrer. Et en fait, construire le raisonnement, réfléchir à tous les angles, à toutes les opportunités, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, là, sur les grandes fortunes, quand vous avez un patrimoine élevé, vous allez voir un avocat fiscaliste et il n'y en a pas un qui vous dit oui, bien sûr, faites votre livret A. N'importe quelle entreprise ou quel
métier. Mais savoir si c'est à frauder, en fait.
Vous un contrat d'assurance vie, vous le faites rédiger en droit luxembourgeois, comme ça, on ne pourra pas venir vous emmerder. Il y a en ce moment un grand mouvement des entrepreneurs qui partent s'installer en Italie, parce qu'en Italie, la fiscalité sur l'héritage, c'est plafonné à 200 000 euros. Et quel que soit ce que vous avez...
Quel que soit le montant,
quel que soit ce que vous avez comme patrimoine, en fait. On essaye de dire il faut taxer plus, mais en réalité, c'est que la France ne vit pas en vase clos. Et donc, tout le monde, aller s'installer à Milan, c'est pas très difficile. C'est pas comme aller s'installer à l'autre bout du monde. Tout le monde le fait.
Mais en fait, avec ce genre de décision, pour trouver 500 millions d'euros tout de suite, on en perd potentiellement 20 milliards dans les années qui suivent, parce que...
Absolument.
Parce qu'on organise une fuite, en fait, tout simplement, quoi. Un appel d'air.
Oui, tout à fait.
Donc, gouverner, c'est prévoir, non? C'était pas ça. Il n'y a pas une phrase comme ça.
Prévoir, il faut encore se dire qu'on sera aux manettes dans un an et demi.
Oui, c'est ça. Ou se dire, d'ici là, on ne sera pas en dépôt de bilan.
Voilà,
quoi,
c'est ça.
c'est tout le drame. Merci Thomas de nous avoir éclairé sur ce sujet qui, je n'en doute pas, passionneront les auditeurs de Radio Courtoisie. Je rappelle toutefois que même si Sébastien Lecornu ne vous y force pas encore, vous pouvez faire des dons, notamment à Radio Courtoisie, qui en a bien besoin. On ne vous forcera pas à léguer toute votre fortune. Pensez à vos enfants, c'est le plus important. Mais en tout cas, voilà, cette radio vit essentiellement de dons et elle compte sur la générosité de tout le monde. On va parler de générosité un petit peu avec vous, Maxime Coupeau. Bonsoir.
Bonsoir cher Marc, un vrai plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps.
Ça faisait au moins une heure et demie, effectivement, qu'on ne vous avait pas vu. Maxime Coupeau, vous êtes journaliste spécialisé défense, vous êtes aussi cinéphile, et vous avez regardé avec beaucoup d'attention, peut-être même plusieurs fois, le diptyque cinématographique consacré au général de Gaulle, réalisé par Antonin Baudry, en deux parties, La bataille de Gaulle. Bon film, est-ce que ces films sont de bons films à voir, Maxime ?
En un mot, francophilie. Ce qu'il faut dire avec ce film, c'est d'ailleurs le parti pris très courageux d'Antonin Baudry, le réalisateur, c'est la volonté, il l'a assumé sur les plateaux de télévision, il ne s'en cache pas, c'est faire un film patriote. Et bien si mon film est patriote, je l'assume, je fais un film patriotique, je n'ai pas honte de l'histoire de France. Il l'a dit à l'antenne de Public Sénat, où il expliquait que c'est un film qui fait découvrir une autre histoire de France, parce que sa volonté, les deux axes de travail qu'il a dans son film, c'est tout d'abord, il ne considère pas que l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, du point de vue américain, appartient à la France. Et donc, en permettant aux Français de se réapproprier cette épopée toute gaulienne, on va redécouvrir la Seconde Guerre mondiale du point de vue français.
Il y avait eu la frustration de la superproduction Dunkerque de Christopher Nolan, où effectivement, Nolan a réussi l'exploit de parler de la bataille de Dunkerque sans qu'on ne voit à aucun moment l'armée française, dont on rappelle, enfin vous allez sans doute rappeler que c'est le sacrifice de l'armée française qui a permis à l'armée anglaise de rembarquer à peu près entière vers Londres et continuer la lutte.
J'ai une heure devant moi ou pas pour...
Non, malheureusement, on a un petit quart d'heure devant nous, Maxime Coupeau. En tout cas, alors ce film, autant le réalisateur a assumé le côté patriotique, il faut rappeler que le lancement du premier film a été un petit peu pollué par une campagne publicitaire pas très heureuse, notamment le personnage principal dont le nom m'échappe, Simon Apkarian, c'est ça ?
C'est ça, je vais y revenir. Ouais. Alors il y a deux points qui malheureusement sont, même trois qui sont regrettables dans ce qui aurait dû être un grand élan national populaire. C'est tout d'abord les historiens qui ont tiré à boulet rouge sur le film en disant que c'était scandaleux, que c'était bourré d'anachronismes. Et puis là, ils font machine arrière et trouvent que c'est formidable, que c'est extraordinaire. Comment se contredire en deux temps ? Ce qui est, la communauté historique française qui, autant sur le film Ridley Scott de Napoléon, c'était tout à fait entendable. C'était pas un film qui mettait en avant Napoléon, mais franchement...
Non, d'ailleurs, Ridley Scott s'était défendu en disant que c'était pas une biographie. Oui,
qu'il
c'est ça.
Ouais.
Alors, il a quand même un conseil historique pour les uniformes, mais ça, c'est...
Mais que tu connais un ami, je crois.
Loris Chevalier, absolument. Continuez, Maxime.
Et l'autre chose, c'est effectivement, Simon Apkarian, qui a quand même planté le film d'emblée, là. On reste un petit peu dans notre microcosme de droite, mais dire, alors, je voulais un De Gaulle international, d'accord. Je voulais faire un De Gaulle qui fait de l'humour. Formidable, et il dit je voulais un De Gaulle qui soit pas. Il voulait pas incarner la stature du général.
C'est dommage.
En fait, il l'incarne exactement à l'écran.
Ouais.
Et l'autre point de vue, c'est Nils Schneider qui s'est retrouvé dans une polémique malgré lui. On lui a demandé son avis sur Bolloré, le soutien du cinéma à Bolloré.
Nils Schneider qui joue
le général Leclerc.
Exactement. Le général Leclerc, absolument.
Et donc, ça a entaché la promotion du film. Donc, c'est trois polémiques mis bout à bout empêchées.
Apkarian n'avait pas déclaré un truc du genre que le général de Gaulle n'aurait jamais été Rassemblement National ou il
avait
pas fait
une phrase. Oui, voilà, c'est ça, il a dit qu'il voulait. Il y a ça aussi. Ouais. Ceux qui vont quand même voir le film à base, c'est quand même les gens de droite.
C'est ça, je me suis dit, c'est quand même dommage.
Il dit qu'il voterait jamais pour la droite et je cite encore moins pour l'extrême droite.
Oui.
Comment plomber un film en 4 polémiques ?
On peut aussi faire un débat historique de 3 heures de qui étaient les premiers résistants à Londres et les auditeurs le savent, mais effectivement, je pense que M. Apkarian aurait été surpris. Ce film couvre quelle période ? Parce que donc ces deux films, ça couvre que la période de la Seconde Guerre mondiale ou est-ce que ça va un peu au-delà ?
Exactement, le film commence en juin 1940.
Je vous parle d'autant plus franchement que j'ai vu aucun des deux.
Allez le voir, cher Marc.
Avec plaisir.
Ça commence d'ailleurs avec une scène très spectaculaire à la bataille de Montcornet. Donc là, on découvre le colonel de Gaulle qui est patron de la 4e division motorisée qui remporte la... C'est une goutte d'eau, entre guillemets, dans la bataille de France, mais la bataille de Montcornet qui marque le début du mythe gaulien, et ensuite on suit tous les événements des premières rencontres avec Churchill, des premiers beaux volontaires qui rallient à la France libre, la difficulté pour De Gaulle à convaincre ces Français à combattre, les moyens politiques, les moyens militaires, puis en deuxième partie on suit Jean Moulin, Leclerc, et ça s'arrête au 11 novembre 1944, malheureusement un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais... plaide pour un troisième film.
En tout cas, ça laisse la place.
Je peux même aider.
Le réalisateur n'a rien annoncé en ce sens, a priori.
Moi, je me porte volontaire pour aider à écrire la dernière partie s'il y a besoin.
Alors, Est-ce que c'est assez rare d'ailleurs de voir dans le cinéma français de telles super productions, parce que c'est quand même un film à gros budget,
75 millions d'euros,
ce qui est colossal pour le cinéma français. C'est une bonne nouvelle que le cinéma s'approprie enfin l'histoire de France en quelque sorte. Alors là, les moyens.
Vous pouvez remercier Pathé, cher Marc, puisqu'effectivement, alors je fais un petit pas de côté, mais le projet de Pathé depuis 2023 s'appelle le Dumaverse entre guillemets, c'est-à-dire voilà, c'est Jérôme Sédou, le patron du cinéma Pathé, qui assume totalement de reprendre l'histoire de France, la littérature française à son avantage. Et donc, on a commencé en 2023 avec Les Trois Mousquetaires, puis on est parti ensuite avec le Comte de Monte Cristo, et on est parti ensuite avec l'année dernière un film sur le RAID qui avait soutenu l'évacuation à Kaboul. Et puis voilà, le projet Pathé est né. L'année prochaine, c'est ambitieux, à la fois des longs formats historiques, mais aussi des séries. Et donc, pour l'année prochaine, on aura notamment Les Rois Maudits. En 2027, un film sur le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas. Et entre-temps, une mini-série portée par Eva Green sur son personnage de Milady, qui devrait sortir, pareil, 2027-2028.
Basé sur le livre, totalement original, sur
Milady.
Basé sur le roman de Delphine de Villon, c'est pas Delphine de Villon, il fait un roman sur Milady. Je sais. Ah là là.
Mais en tout cas, vous aurez également la troisième partie des Trois Mousquetaires, pareil, qui doit sortir 2027 ou 2028. Donc, du côté de Pathé, il y a de l'ambition et Antonin Baudry a répondu au contrat avec son film.
Thomas Morel.
Est-ce que, avec ces films, justement, avec ce personnage de De Gaulle, ces super productions, également ce dont on parle cette semaine dans Valeurs Actuelles, volonté de réarmement, les investissements de la défense, est-ce qu'on est en train d'assister à une forme de sursaut patriotique en France où, en fait, après des années à s'autoflageller, il y a un petit mouvement de gens qui publiquement disent ben oui, on aime la France, on aime le drapeau, on aime toutes ces choses-là?
Tout d'abord, pour rester sur le film De Gaulle, je me suis rendu hier pour préparer cette émission, cher Marc, et deux choses m'ont marqué.
Waouh.
C'est faut bien travailler.
Mais écoutez, je suis. Si seulement tout le monde travaillait autant que vous cette émission. Je parle pas de vous, Thomas.
Et ce qui a été marquant, c'est que j'avais à côté de moi un père et sa fille qui étaient en première, et sa fille n'a pas arrêté de poser des questions pour savoir qui était Koenig, qui était De Gaulle, pourquoi on voit pas la bataille de Bir Hakeim à l'écran, ce genre de choses. Et donc après, le père a dit à sa fille. Bah écoute, je crois qu'il y a des musées sur l'histoire de la résistance à Paris que j'ai un peu conseillé dans l'ombre. Mais donc, ce père et cette fille vont aller visiter le musée des Compagnons de la Libération aux Invalides, vont aller au musée de la Libération Leclerc-Moulin. Donc vraiment, ce qu'il y a de marquant avec ce film sur le général de Gaulle, il y a ce côté très français, hein, quelque chose qui est vraiment propre à notre culture historique, le mythe du guide, du sauveur, l'homme providentiel. Ça, c'est ce qui ressortait énormément dans les commentaires des gens à la sortie du cinéma, c'est... quid de la France de demain, et s'il n'y avait pas eu De Gaulle, qu'est-ce qui serait passé? Donc il y a vraiment une recherche ils ne sont plus en train de se flageller. Le public qui vient voir le film de De Gaulle est fier de voir les Français à Bir Hakeim, les Français de Leclerc, enfin il n'y a plus de honte. Donc je pense que le film fait du bien dans le contexte actuel.
C'est ça, alors j'ai vu les bandes annonces, et du coup, moi, alors pour le coup, j'avais regardé d'autres films sur De Gaulle. Il y avait notamment le téléfilm en plusieurs épisodes avec Bernard Farcy,
exactement,
dans le rôle général de Gaulle, mais qui était plus sur la période, on va dire,
plus politique, oui, 44.
Beaucoup plus politique, plus intime. Le film avec Lambert Wilson, qui campe un général de Gaulle assez crédible, mais on est plus sur la relation entre le général de Gaulle et son épouse. C'est vrai peut-être qu'on nous a trop rabâché l'idée d'un général de Gaulle vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, etc., que le cinéma français s'est surtout attaché à nous dépeindre un peu l'homme derrière le symbole. Et là, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui dit, mais en fait, il y a aussi le mythe du combattant, il y a aussi le côté mythologique, le côté qui, évidemment, va faire hurler la gauche, parce qu'on rappelle que le général de Gaulle, en mai 68, c'est impossible à imaginer, mais il se faisait traiter de SS, de nazi. Ça veut dire quoi pour vous qu'en 2026, justement, on quitte justement la partie intimiste du général de Gaulle que tout le monde a, dont tout le monde a soupé en quelque sorte, et qu'on revienne au mythe fondateur de la cinquième, en fait, tout simplement?
Il faut revenir aussi sur l'origine du film, c'est-à-dire qu'Antonin Baudry s'est basé sur un pavé, plus de 1500 pages, qui est une certaine idée de la France de l'historien Julian Jackson, donc qui est un historien britannique spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et qui lui fait dans ce livre, recoupe plusieurs écrits, plusieurs ouvrages, fait un peu une synthèse globale de ce qui a déjà été écrit sur le général de Gaulle, reprend les archives du général de Gaulle et narre cette épopée gaulienne à travers de grands récits, de grands exploits et de grands personnages. Et ça, Antonin Baudry, le travail, parce que ce qui a été marquant avec Napoléon, c'est qu'il n'avait pas bossé avec des historiens. Or là, Baudry a assumé travailler avec Julian Jackson, à notamment choisir les séquences, je cite, les plus romanesques. Donc prendre les moments les plus marquants, qu'est-ce qui peut mieux le passer à l'écran, Et après, en travaillant avec également son épouse, qui est co-scénariste du film, qui connaît d'ailleurs mieux l'épopée de Gaulle que le réalisateur lui-même, savoir quelle bataille ou quel moment on peut mettre à l'écran pour que ce soit plus vivant. C'est-à-dire qu'il y a une volonté dans Tonin Baudry d'incarner, de ce côté, vraiment mettre en avant le côté romanesque. C'est ça, c'est le mot important, le mot romanesque du côté de la France libre. Et après, vous avez, je me permets un petit pas de côté, deux intervenants qui ont permis aussi la crédibilité du mythe gaulien. C'est tout d'abord M. Géraud Létang, qui est chercheur à l'école de guerre et qui, lui, est insisté sur les petits détails sur comment Churchill pouvait boire, comment se comportaient les Français dans le désert. Et vous avez le colonel Liane Douté, qui est de la Légion étrangère, qui, lui, a bossé avec Simon Apkarian sur comment on incarne un général, comment on porte un copie, comment on défile, comment on porte les épaulettes. Donc c'est vraiment cet ensemble qui a permis de...
Une recherche du détail, quoi.
Totalement...
On rend la chose crédible.
Je parle en passionné, vraiment, tout ce que vous... Tous les objets, tous les canons, tous les fusils, tous les uniformes que vous pouvez voir dans le film, vous les retrouverez en vrai au Musée Compagnon de la Libération aux Invalides.
C'est rigoureusement d'époque. Thomas Morel.
Ce réalisateur de ce film, c'est déjà le réalisateur de Quai d'Orsay, du Chant du Loup. Est-ce que il fallait un réalisateur comme ça, qui, par ailleurs, il était diplomate avant cela. Ouais. Est-ce qu'il fallait quelqu'un justement qui ait un profil très politique pour comprendre ce genre de choses?
Là, je vais, entre guillemets, autoplagier Antonin Baudry, mais en fait, quand il vous dit « j'aime la France et j'assume faire un film historique », effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est-à-dire qu'il l'a aimé. En fait, la passion qu'il a mis à faire ce film se ressent aussi avec le casting, avec... vous allez sur les réseaux sociaux des techniciens du film, ceux qui pouvaient filmer, ceux qui faisaient les costumes. Il y a vraiment une volonté de se réapproprier cette épopée gaulliste. Et en fait, il a partagé... le film sur le général de Gaulle, pardon, est une épopée au même titre que l'histoire du vrai général qui porte à l'écran. Et donc, quand vous voyez ceux qui font les costumes, les acteurs, entre guillemets, les doublures, enfin, ce genre de choses, il y a vraiment une... Même les acteurs, c'est-à-dire que l'acteur de Jean Moulin a lu les mémoires de Daniel Cordier, qui était secrétaire de Jean Moulin. Il paraît que Benoît Magimel, qui incarne le général Koenig, a fait réécrire des scènes parce que, je cite, c'était pas assez historique pour lui. Donc voilà, il y a ça. Et puis vous avez surtout, là, j'en profite, je suis à l'antenne de Radio Courtoisie, mais le personnage de Fernand Bonnier de La Chapelle, pour une fois qu'on met un résistant de droite en avant dans le cinéma français, l'acteur a lu la biographie qui était consacrée à son personnage aux éditions Perrin, et surtout avec le réalisateur, est rentré en contact avec la famille de Fernand Bonnier de La Chapelle, qui lui ont ouvert les portes de l'univers de ce grand résistant. Donc oui, c'est une aventure... collectif, tant sur le plan historique que sur le plan artistique.
Où tout le monde s'est plongé vraiment dans les racines du sujet. Passionnant, merci beaucoup Maxime Coupeau. Alors vous avez aussi contribué, on fait une petite transition militaire, au dernier numéro de Valeurs Actuelles, donc Macron face à son testament, en parlant évidemment des armées, puisque thème assez gaulien lui aussi, le réarmement. C'est vraiment sans doute ce qui va rester d'Emmanuel Macron président lors de son deuxième mandat, ce sont les armées. Comme si finalement, lorsqu'on veut se retrouver une légitimité présidentielle, lorsqu'on veut se redonner une stature présidentielle, eh bien on réendosse le costume de militaire en quelque sorte, Maxime.
Surtout quand on regarde son premier 14 juillet 2017 où il fait la polémique en virant le général de Villiers avec perte et fracas en expliquant « je suis un chef, je fais tout ». Je sais pas ce qui s'est passé en interne à l'Élysée, mais en tout cas il y a une prise de conscience d'Emmanuel Macron que l'armée était du domaine présidentiel. Donc là, je remonte un tout petit peu, mais donc la droite avait quand même abandonné ses sujets sous Nicolas Sarkozy. François Hollande, avec Jean-Yves Le Drian, avait fait notamment les efforts d'exportation d'armement, que ce soit le Rafale, le canon César. Emmanuel Macron, je vous entendais, chers collègues, cher Thomas, du point de vue économique, en tout cas, la relance de l'industrie de défense par rapport à 2022 ou la guerre en Ukraine, on s'est retrouvé comme des ronds de flanc. Pardonnez-moi la vulgarité de mon propos, mais qu'est-ce qu'un missile, qu'est-ce qu'un drone, comment on arrive à produire? Et là, vous arrivez 4 ans plus tard au salon Eurosatory, où ce sont plus les industriels vraiment qui anticipent les conflits, anticipent les crises, développent les matériels de demain, arrivent à que ce soit des grosses boîtes comme Dassault, MBDA, ou même des petites PME, TPE, start-up. Enfin voilà, on réinvestit tous les domaines, également dans l'espace, le New Space, l'IA. Enfin voilà, il y a vraiment une mobilisation générale. Le seul petit point noir de ça, c'est, vous t'en parlais Thomas, c'est l'argent.
Oui.
Ça a des conséquences sur l'armée parce que les industriels sont prêts à passer la cadence, puisque Emmanuel Macron a martelé son mantra d'économie de guerre.
Ouais.
Et quand vous voulez faire des cadences sans argent.
Oui,
et
c'est
un vrai sujet. Et l'autre sujet, c'est aussi c'est un peu peut-être pique hein, Emmanuel Macron, l'Européiste, c'est nous aussi, les industriels français, on sait faire, on peut faire seul. Et donc, c'était le cas avec le SCAF, notamment, qui a provoqué une petite crise du côté de l'Allemagne.
C'est le fait d'avoir un Premier ministre, ancien ministre des armées, va peut-être aider l'armée à prendre davantage de budget. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut dire, contrairement à beaucoup d'autres corps d'État, heureux comme un militaire ou un industriel de l'armement sous Emmanuel Macron. Vous avez écrit notamment deux pages, alors vous avez écrit deux articles dans ce dossier, mais il y en a un qui m'intéresse parce que justement on a parlé des moyens techniques, les drones, etc. Donc, mais on en revient quand même à cette question de base, vous avez écrit deux pages très intéressantes sur le moral des troupes, malgré les innovations technologiques, malgré toutes les armes les plus performantes qu'on pourra avoir, etc. Le moral des troupes reste quand même une des données de base. En quoi c'est une arme de guerre, le moral? En quoi c'est resté une arme de guerre, en fait, tout simplement, le moral, Maxime?
Tout d'abord, à l'antenne, je voudrais remercier le colonel Meignier qui m'a accordé beaucoup de temps pour parler de ce sujet, parce que c'est un vrai sujet philosophique, le moral de guerre, notamment pour l'armée française. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est dans la culture militaire française, c'est-à-dire comment on va porter un sac à dos, comment... Enfin, il y a plusieurs étapes à la formation militaire, mais d'abord, c'est comment on va endurer les marches de nuit de 5 km, j'ai mal aux pieds, comment je vais faire pour avancer, comment on va ensuite... Il y a ce que disait le colonel Meignier, l'inné et l'acquis, c'est-à-dire comment aujourd'hui un soldat arrive à travailler que ce soit son corps, c'est-à-dire à sculpter son corps pour la guerre, et ensuite à travailler le mental, c'est-à-dire quelle est ma mission, pourquoi je m'engage dans cette mission, et à la fin de cette mission, je suis prêt, entre guillemets, à tuer, et à tuer notamment pour une cause plus grande qui est mon pays. Et ça, c'est, je me permets une petite parenthèse par rapport au film de Gaulle, c'est très visible dans la scène avec le général Koenig, la bataille de Bir Hakeim, où il explique en quatre points comment on va se mener se dérouler cette bataille de Bir Hakeim. Et d'ailleurs, Benoît Magimel récite mot pour mot le véritable texte qu'avait dit Koenig à la radio à ses hommes.
Rassurez-vous, ça va bien se passer, quoi.
Bah, voilà, les quatre points pour expliquer, voilà la stratégie, voilà comment il va falloir tenir, et voilà comment on va devoir faire pour tenir. Et surtout, dernier mot, bonne chance à tous.
Ouais. Plus de général Koenig, moins de Gérald Darmanin. à propos de ça va bien se passer. Merci Maxime Coupeau d'avoir été avec nous pour parler et des deux films consacrés au général de Gaulle et à ce dossier passionnant de Valeurs Actuelles. Restez avec nous, chers auditeurs. On revient dans quelques instants avec Jean-Frédéric Poisson, mais d'abord un petit message à votre radio.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue à la dernière partie de cette émission de ce Restons courtois, présenté comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Thomas Morel du service économie, police-justice, je vous aurais fait retrouver le service économie-société. Nous étions avec Maxime Coupeau, journaliste spécialisé défense, avec qui nous avons évoqué notamment le diptyque consacré au général de Gaulle et aussi ce dossier de Valeurs Actuelles sur l'armement. Petite réaction d'un auditeur que je cite, désolé mais le Milady de 2003 fait-il partie du projet de pâté? J'ai tenté de regarder ce truc, j'ai craqué avant le premier quart d'heure et qui aurait d'effets spéciaux et de combats à l'épée dignes de George Lucas et de Dark Vador. C'est dans l'exception culturelle française Vercingétorix avec les oreilles de Mickey. Alors merci pour cet avis de cinéphile. Alors je crois que le projet Milady fait partie d'un futur projet, un nouveau projet qui paraîtra après le dernier épisode des Trois Mousquetaires. Donc c'est un nouveau projet, cher auditeur. Rassurez-vous, il sera sans doute meilleur que le précédent. En tout cas, je n'ai pas vu la version de 2003. Donc je fais confiance à votre jugement. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson.
Bonsoir Marc Hainaut, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Morel.
Président de VIA PCD, ancien député des Yvelines, ancien vice-président de la commission des lois, très engagé sur les débats sur la fin de vie. Beaucoup de personnes ont été choquées lorsqu'elles ont vu que le ministre en charge des relations avec le Parlement, Laurent Panifou, a convié les partisans de l'euthanasie à une petite sauterie post-vote final. Alors déjà en sachant que le vote final n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait pas encore si cette sauterie aura des raisons d'exister, d'ailleurs on espère que non, et cette sauterie co-organisée en tout cas dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, qui prouve par là sa parfaite objectivité dans le débat national. Ça vous a choqué, Jean-Frédéric Poisson, bien évidemment?
Bah oui, il y avait de quoi.
Absolument.
D'abord, comme vous l'avez rappelé à l'instant, parce que ça ne manifeste pas un très grand respect pour le travail parlementaire et le vote des députés, mais bon, c'est, on est habitué. Hein. Il y a une forme de mépris structurel des institutions dans le macronisme ambiant qui s'incarne aussi dans cette décision. Deuxièmement, ce qui est choquant, c'est la légèreté avec laquelle on traite un sujet aussi grave, en définitive. Alors, j'entends des commentateurs tout à fait avisés et qui nous disent que ça se fait tout le temps, qu'à chaque fois qu'il y a un texte qui est voté, il y a un pot, etc. Mais non, pas du tout. Mmh. Ça se fait à la fin de la session parlementaire, oui, en principe. Le ministre des Relations avec le Parlement ou le Premier ministre invite les députés dans son ministère, très bien, à la buvette de temps en temps, quand on termine un peu tard, les textes en séance de nuit. Le ministre convie pour boire un verre à tous ceux qui ont le courage de rester, mais enfin, globalement, c'est pas à chaque fois qu'on adopte un texte qu'on va boire un coup dans un ministère, parce que, franchement, il me semble que les députés n'ont pas que ça à faire. Mais je reviens sur la légèreté, qui marque bien, en définitive, à la fois... C'est la tonalité générale du débat, si vous voulez. Ouais. C'est que, quand on a assisté par écran interposé au débat à l'Assemblée nationale en particulier, c'est un peu moins vrai au Sénat, on est frappé par le fait que des questions extrêmement solides, extrêmement graves, très sérieuses sont posées par les opposants au texte, qui sont balayées d'un revers de main par leurs partisans, sans vouloir entrer dans le fond. Je comprends d'ailleurs leur gêne, parce que s'il avait fallu entrer dans le fond du texte, à mon avis, il serait encore. Donc, cette légèreté-là, cette espèce couplée à la frénésie d'un certain nombre de macronistes patentés qui veulent à tout prix faire adopter le texte pour avoir quelque chose à dire en termes de bilan final de 10 ans de Macron, voilà, ça explique aussi le fait que bon, on va boire un coup parce qu'on est très content d'avoir adopté l'euthanasie. Et je préviens mes excellents collègues qui sont bagarrés contre ce texte depuis maintenant 2 ans, presque 3, le moment très difficile à supporter va être si jamais le texte était adopté, ce qui n'est pas fait, mais si c'est adopté, de voir les partisans du texte se lever, applaudir debout dans une sorte d'ovation, comme on dit en français, un texte qui est une barbarie pure.
Ouais.
Le moment plus compliqué sera celui-là.
Ça fait penser, il y avait eu un épisode analogue lorsqu'on a été voté la constitutionnalisation de l'IVG. Et ce qui m'avait frappé, parce que j'ai assisté au débat au congrès de Versailles, ce qui était frappant, c'est que je conçois tout à fait qu'on soit pour ou contre, qu'on soit puisse être pour la constitution de l'IVG, qu'on puisse être pour l'euthanasie, je veux dire, enfin tous les dédains, mais je veux dire, tous les points de vue sont tout à fait défendables, mais se réjouir d'une victoire de la mort, enfin se réjouir d'une victoire de la mort, ça a quand même quelque chose de déplacé. Il y a des victoires qu'il faut avoir humbles tant le sujet est grave. Et là, force est de constater que il y a une espèce de joie qui déborde et ce qui rend cette joie presque malsaine, en fait, Jean-Frédéric Poisson.
Oui, c'est
plus une observation qu'une question, mais.
Non, mais c'est la joie révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on est, on perd de vue le fait que j'observe d'abord premièrement que le groupe LFI est le seul groupe qui est voté à 99% pour le texte, enfin c'est la plus forte proportion de votants pour. Donc la logique révolutionnaire qui est la leur, et dans la logique de la révolution, tout ce qui s'oppose au progrès de la liberté est réactionnaire. Donc, alors vous êtes un afro-réactionnaire, Marquenot.
Oui, mais ça je le savais déjà, Jean-Frédéric Poisson.
moi avant vous, mais ce n'est que le privilège de l'âge, certainement. si vous voulez, donc je vois bien de quoi je parle. Et alors, dans la logique marxiste, nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous sommes nés du mauvais côté de la rivière, d'une certaine manière, donc presque on n'est pour rien.
Ouais.
Mais en fait, cette espèce d'affrontement permanent entre les forces de la révolution et les autres, et d'une certaine manière imaginé, vécu par les révolutionnaires comme comment dire, un motif de joie à chaque fois que la victoire, la révolution l'emporte sur la réaction.
Mais alors...
c'est ça l'arrière-plan, et malheureusement, le macronisme sous ce rapport est rentré dans cette logique d'affranchissement total des êtres humains par rapport aux contraintes de la nature, et c'est pas étonnant d'ailleurs, mais enfin c'est une confirmation supplémentaire.
Mais que les macronistes, on va dire par vide, que les socialistes par réflexe philosophique ancien, on va dire, les écologistes pour des raisons projet socialiste, soit pour ce texte, moi, il n'y avait rien de très surprenant, en tout cas dans leur immense majorité pour ce texte. J'ai trouvé ça plus surprenant justement de la part des insoumis qui brandissent quand même depuis des années la défense du plus faible, des minorités persécutées. Je sais d'ailleurs par des confrères de gauche qui ont été très très largement sollicités par des collectifs anti-validistes, comme ils disent, enfin des collectifs justement d'extrême gauche qui luttent pour l'inclusion des personnes handicapées et qui les ont alertés justement sur les dangers, sur les dangers certes éthiques mais aussi sociaux de cette proposition de loi, et ils ont maintenu malgré les réserves de leur propre électorat en fait. C'est ça que j'arrive pas à expliquer, Jean-Frédéric Poisson.
Ah ben écoutez, je pense que c'est... on ne fait pas d'omelette sans casser deux, comme dit l'autre. Il y a des victoires dont la mécanique révolutionnaire doit accepter qu'elle fasse par ailleurs des victimes collatérales d'une certaine manière, ou qu'elle méprise une partie des engagements pris par ailleurs par les partis politiques. Je pense qu'il y a, enfin, il ne faut jamais oublier que derrière cette question, il y a une question spirituelle qui est la première de toutes. Je ne vais pas dire religieux, j'ai dit spirituel, ce n'est pas la même chose.
Non, j'avais compris la nuance, mais si vous voulez l'expliquer, allez-y.
C'est-à-dire que c'est la question de savoir qui est, y a-t-il quelqu'un qui soit maître de l'homme ? Et à cette question, il peut y avoir trois réponses possibles. La première, c'est personne. La deuxième, c'est quelqu'un d'autre que l'homme. Et la troisième, c'est l'homme lui-même. Et on est en train de répondre dans la droite ligne des lois Veil, des lois sur la bioéthique. La loi sur l'euthanasie n'est qu'une continuation en réalité de cette logique. L'homme moderne a décidé de se rendre maître de lui-même, c'est-à-dire, comme disait cette terrible phrase de Jean-François Mattei dans un rapport donné à Ivor Balladur sur la bioéthique il y a 30 ans et quelques, voici ce que disait cette phrase, que les auditeurs connaissent parce que je l'ai prononcée plusieurs fois à ce micro: il appartient désormais au corps social de fixer lui-même les limites au-delà desquelles il ne reconnaît plus la forme de la condition humaine. Autrement dit, il y a une logique de voilà, c'est à l'être humain lui-même, au droit positif, de définir qui est humain, qui ne l'est pas, qui est protégé par le droit, qui ne l'est pas. Et ça, c'est un phénomène de toute puissance. C'est la raison pour laquelle, dans cette mécanique de toute puissance, la gauche révolutionnaire s'y retrouve parce qu'elle a besoin de cette toute puissance pour faire aboutir ses projets, et le libéralisme s'y retrouve parce que la souveraineté de l'individu, qui est le credo libéral, a parfaitement besoin de cette logique toute-puissante qui est derrière ce texte.
Toutefois, on a senti Emmanuel Macron retenu. C'est une proposition de loi, un projet de loi qui est arrivé tard proportionnellement, puisqu'il n'est arrivé que dans la... il n'est arrivé que dans le deuxième quinquennat. Comment expliquer qu'Emmanuel Macron, enfin que la Macronie ait mis autant de temps avant de se mettre sur ce texte? Est-ce que c'était, comme vous le sous-entendiez en début, est-ce que c'est un moyen finalement de faire des choses, de faire des choses lorsqu'on est mis face à sa propre impuissance politique? Est-ce qu'on cherche un peu des textes consensuels pour montrer qu'on a fait avancer le débat? On a vu qu'Yael Braun-Pivet voulait mettre cela absolument sur son bilan de présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que on est vraiment sur des raisons de marqueurs politiques en fait? On est en train de légiférer sur quelque chose aussi grave d'un point de vue de l'exécutif, en tout cas pour des bêtes questions de marqueurs politiques, Jean-Frédéric Poisson?
Ben oui, à cette exception près, cher Marqueno, que si vous regardez bien les deux textes que nous avons évoqués jusqu'ici, c'est-à-dire l'inscription de l'IVG dans la Constitution et l'euthanasie, j'observe que, comme d'ailleurs c'était le cas du PACS à une époque, ce sont des propositions de loi qui les ont portées, ça ne sont pas des projets de loi.
Absolument.
Le gouvernement s'est planqué d'une certaine manière derrière ce qui est sa propre majorité, ou ce qu'il était, ou ce qui a vocation à l'être, je ne sais pas très bien comment il faut dire tout ça. Mais en réalité, c'est une opération de camouflage. C'est-à-dire, c'est un projet, Macron l'avait annoncé, il ne l'a jamais assumé. Il y a eu une première tentative, souvenez-vous, dans le premier quinquennat, Jean-Louis Touraine, en 2021, qui a inscrit une proposition de loi lors du jour de l'Assemblée, qui n'a pas pu voir le jour parce qu'on a fait traîner les choses jusqu'à minuit, ce qui fait que c'est comme le carrosse de Cendrillon, c'est-à-dire à minuit, les projets de loi se transforment en citrouille et on n'en parle plus. Là, c'est ce qui s'est produit. Cette fois-ci, pour l'avortement, on a dit bon, bah, ok, le gouvernement reprend à son compte et s'assure du fait que l'inscription à l'ordre du jour ne permette pas de blocage. On a fait pareil avec l'euthanasie, mais à l'origine, ce sont des propositions de loi. Le gouvernement n'assume pas la paternité du texte à défaut d'en garantir le bon déroulement.
Secondes, Jean-Frédéric Poisson.
Mais d'un manque de courage qui sera, en plus de l'incompétence, la double marque de ces 10 ans de macronisme.
Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson, président de Via le PCD, d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission. Merci Thomas Morel de m'avoir accompagné pendant toute cette émission. Merci à vous chers auditeurs, merci à nos amis de la technique et à nos amis du secrétariat. À très bientôt chers auditeurs, même à jeudi prochain pour une future émission.
Ça suffit maintenant.